les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
Les pionniers, on continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre toutes les questions que vous vous posez en tant qu'entrepreneur, notamment. Et je suis là pour y répondre, Stéphanie.
Et pour poser vos questions, justement, rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. BFM Business. Et vous avez également le QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Cécilia. Comment rester résilient en période de crise ?
Alors déjà, il ne faut pas paniquer. Non mais ça paraît bête, mais il ne faut pas paniquer, il ne faut pas non plus être dans le déni. Les choses ont changé. Alors c'est Keynes qui disait « quand les faits changent, je change d'avis ». Donc il faut déjà faire un état des lieux de ce qui a véritablement changé et être honnête par rapport à ce qui a pu changer. Quand il y a une crise, il y a manifestement un ou plusieurs paramètres que l'on pensait stables qui a été déstabilisé. Donc il faut déjà avoir cette honnêteté intellectuelle, j'ai envie de dire, de comparer les situations d'avant et la situation de crise et comprendre ce qui est différent. Ensuite, on va aller s'appuyer sur les forces et les singularités de sa propre structure. Donc là, je parle en tant qu'entreprise, du coup. Si je vois comment, par exemple, au moment de la pandémie, Blablacar a réagi, Blablacar s'est appuyé sur ses deux forces, qui sont son équipe formidable de gens soudés avec une culture résiliente, c'est-à-dire une culture apprenante, aidante, et d'où l'importance d'aller créer une culture importante. C'est dans les crises qu'on va tester si ça tient bien en tant qu'équipe. Hein, on en a parlé dans d'autres émissions. Et puis la deuxième force, c'est la communauté d'un Blablacar. Donc il y a à la fois l'équipe plus la communauté. Et c'est ce qui nous a permis d'aller développer un service qui s'appelait Blabla Help à l'époque. Donc c'était un service d'entraide entre voisins pour faire en sorte que les voisins puissent faire les courses de ceux qui ne pouvaient pas aller dans les magasins, parce qu'il y avait un moment où on ne pouvait pas aller dans les magasins à cause de la pandémie, où les personnes les plus fragiles étaient conseillées de ne pas y aller. Donc ça c'est assez important. Il ne faut pas céder à la nostalgie ni à la surinterprétation. Il ne faut pas être en mode de overreaction, comme disent les anglo-saxons, donc sur-réaction ou sur-interprétation. Donc voilà, il faut garder son calme, faire un état des lieux, analyser ses forces, principalement s'appuyer sur ses forces pour réinventer quelque chose de nouveau quand le contexte a changé.
Alors on enchaîne avec la question de Fabrice. Quelle est la méthode de travail en équipe la plus efficace pour une start-up ?
Alors, il n'y a pas une méthode.
Oui.
En vrai, c'est quand même compliqué.
Ça se saurait.
Il n'y a pas une méthode, mais il y a quand même des choses à faire. Pourquoi ? Parce que dans une start-up, par définition, très souvent, on parle d'une petite équipe. Une petite équipe, ça veut dire plusieurs personnalités différentes et pas uniquement des fonctions. Une équipe, une start-up, c'est comme un puzzle. Les pièces, elles sont toutes différentes. C'est nos personnalités à nous, nos affinités à nous, nos compétences à nous, de chacun. L'enjeu toujours sur une petite équipe, c'est de faire en sorte que le puzzle ait le moins de trous possible et de couvrir la palette dont l'entreprise a besoin pour ses besoins. Mais ça, on le fait en fonction des compétences et des affinités de chacun. Et à une petite échelle, ça se voit. C'est-à-dire que c'est des pièces très identifiables. À l'échelle d'une grande société, on va parler de fonctions, de rôles, avec des descriptions de postes extrêmement précises, parce que ça a été tout extrêmement découpé. Mais enfin, dans une start-up, comme il faut couvrir quasiment tous les métiers à très peu de personnes, eh bien, c'est un assemblage de ce type-là. Donc, faut être conscient de cette structure-là. Et ensuite, évidemment, faut modéliser, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire, comment, quand. Donc, il faut quand même se donner des horizons pas trop lointains, à quelques semaines ou à quelques mois maximum, évidemment, peut-être 2-3 mois. Et il faut s'imaginer ce que l'on va pouvoir modifier assez rapidement pour tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que qui dit start-up, souvent, dit aussi activité qui démarre et donc qui n'a pas encore forcément trouvé exactement soit son modèle économique, soit carrément son marché. Et donc, il faut être capable d'itérer rapidement, donc de tester. Donc, on ne peut pas faire des plans à 12 mois. Même si on a une très grande ambition, on va avancer sous forme d'itération avec plein de petits tests. Donc voilà, il faut rester agile, faire un plan à quelques semaines ou quelques mois maximum et puis répartir toutes les tâches qu'on envisage de faire sur l'équipe qui est un puzzle complémentaire.
Merci beaucoup Fred pour toutes ces réponses à vos questions. Rendez-vous sur le site de BFM Business, la page des pionniers, pour revoir cette émission en replay, en podcast aussi, c'est possible. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez nous contacter, vous avez donc cette page. mais vous avez également l'adresse mail lespionniers@bfmbusiness.fr. Fred, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.